Troisième partie. Chapitre 2. L'arête granitique. La nuit passa. Dans la lueur chancelante des étoiles, ni Nam, ni Gao, ni le chef ne virent de silhouette humaine. Ils n'entendirent et ne flairèrent que les vents humides, les bêtes de marécage, les rapaces aux ailes molles. Quand le matin se répandit comme une vapeur d'argent, la lande montra sa face morne, suivie d'une eau sans limite, entrecoupée d'îles boueuses. S'il s'éloignait des rives, il retrouverait sans doute les nains rouges. Il fallait suivre les confins de la lande et du marécage, à la recherche d'une issue, et comme rien n'indiquait la direction préférable, ils prirent celle qui semblait le moins se prêter aux embûches. D'abord, cette route se montra bonne. Le sol assez résistant, à peine coupé de quelques flaques, produisait des plantes courtes, sauf au rivage même. Vers le milieu du jour, les buissons et les arbustes se multiplièrent. Il fallut continuellement guetter l'horizon rétréci. Toutefois, Nao ne croyait pas que les nains rouges fussent proches. S'ils n'avaient pas abandonné la poursuite, ils suivaient la trace des oulamres. Leur retard devait être considérable. La provision de chair était épuisée. Les nomades se rapprochèrent du rivage où foisonnait la proie. Ils manquèrent une outarde qui se réfugia sur une île. Ensuite, Gao captura une petite brème à l'embouchure d'un ruisseau. Nao perça de son harpon un râle d'eau, puis Nam pêcha plusieurs anguilles. Ils allumèrent un feu d'herbes sèches et de rameaux, joyeux de flairer l'odeur des chairs rôties. La vie fut bonne, la force emplit leur jeunesse. Ils croyaient avoir lassé les nains rouges, et ils achevaient de ronger les os du râle lorsque des bêtes jaillirent des buissons. Nao reconnut qu'elle fuyait un ennemi considérable. Il se leva, il eut le temps de voir une forme furtive dans un interstice de végétaux. « Les nains rouges sont revenus, » dit-il. Le péril était plus redoutable que naguère, car les nains rouges pouvaient suivre les oulamres à couvert, leur couper la route par des embuscades. Une bande de territoire s'allongeait, presque nue et favorable à la fuite, entre le marécage et la brousse. Les oulamres se hâtèrent de charger les cages et ce qui leur restait de chair. Rien n'entrava leur départ. Si l'ennemi les suivait par les buissons, ils devaient perdre du terrain, étant ensemble moins lestes et entravés par les végétaux. La lande aride s'élargit d'abord, puis elle commença à se rétrécir parmi des arbres, des arbustes ou des herbes hautes. Pourtant, le sol demeurait solide, et Nao était sûr d'avoir distancé les nains rouges. Tant qu'aucun obstacle ne se présenterait, il garderait l'avantage. Les obstacles vinrent. Le marécage avança des tentacules sur la plaine, des havres profonds, des mares, des canaux gorgés de plantes visqueuses. Les fugitifs voyaient leur route obstruée sans relâche. Ils devaient tourner, biaiser et même revenir sur leurs pas. À la fin, ils se trouvèrent resserrés sur une bande granitique que limitait à droite l'eau immense, à gauche des terrains inondés par les crues d'automne. L'ossature granitique s'abaissa et disparut. Les oulamres se trouvaient cernés sur trois faces. Il leur fallait ou rebrousser chemin ou attendre les coups du hasard. Ce fut un moment formidable. Si les nains rouges étaient à l'entrée de la bande, toute retraite devenait impossible. Et Nao, le front bas devant le monde hostile, regretta amèrement d'avoir quitté les mammouths. Son énergie fléchit, il connut le découragement et la détresse. Puis l'action revint avec son urgence et sa rudesse. Le regret passa comme un battement de cœur, il n'y eut que leur présente. Elle exigeait l'attention de tout l'être et l'éveil continu des sens. Les nomades essayèrent rapidement les issues. Au loin, une masse rousse s'élevait, qui pouvait être une île, qui pouvait aussi être la reprise de l'arête. Gao et Nao cherchèrent un guet. Ils ne trouvèrent que l'eau profonde ou la trahison des fanges et des vases. Alors la dernière chance était dans le retour. Ils le décidèrent brusquement et l'exécutèrent en hâte. Ils parcoururent 2000 coudées et se retrouvèrent hors du marécage, devant une végétation touffue, à peine entrecoupé d'îlots et d'herbes rases. Nam qui précédait s'arrêta net et dit « Les nains rouges sont là !» Nao n'en doutait point. Pour mieux s'en assurer, il ramassa des pierres et les lança rapidement dans le fourré que Nam désignait. une fuite légère mais certaine décela les ennemis. La retraite devenait impossible. Il fallait se préparer au combat. Or, l'endroit où se trouvaient les oulamres ne leur offrait point d'avantage et permettait aux nains rouges de les envelopper. Mieux valait s'établir sur une partie de l'arête. Avec la lueur du feu, ils y seraient à l'abri des surprises. Nao, Nam et Gao poussèrent leurs cris de guerre. Et tandis qu'ils brandissaient leurs armes, Nao clamait « Les nains rouges ont tort de poursuivre les oulamres, qui sont forts comme l'ours et agiles comme le saïga. Si les nains rouges les attaquent, ils mourront en grand nombre. Nao seul en abattra 10. Nam et Gao en tueront aussi. Les nains rouges veulent-ils faire mourir 15 de leurs guerriers pour détruire 3 oulamres ?» De toutes parts, des voix s'élevèrent dans les buissons et parmi les hautes herbes. Le fils du léopard comprit que les nains rouges voulaient la guerre et la mort. Il ne s'en étonnait pas. De tout temps, les oulamres n'avaient-ils pas tué les hommes étrangers qu'ils surprenaient près de la horde? Le vieux Goun disait « Il vaut mieux laisser la vie au loup et au léopard qu'à l'homme, car l'homme que tu n'as pas tué aujourd'hui, il viendra plus tard avec d'autres hommes pour te mettre à mort. Nao ne reviendrait pas mettre à mort les nains rouges s'il lui laissait la route libre, mais il comprenait bien qu'il devait le craindre. » D'ailleurs, il savait aussi que les hommes de deux hordes se haïssent naturellement plus que le rhinocéros ne hait le mammouth. Sa grande poitrine s'emplissait de colère. Il provoqua les ennemis. Il s'avança vers les buissons en grondant. De minces sagaies sifflèrent, dont aucune ne vint jusqu'à lui. Et il poussa un rire farouche. « Les bras des nains rouges sont faibles. Ce sont des bras d'enfants. À chaque coup, Nao en abattra un de sa massue ou de sa hache. » Une tête s'aperçut parmi les vignes sauvages. Elle se confondait avec la teinte des feuilles rougies par l'automne. Mais Nao avait vu briller les yeux. Une fois encore, il voulut montrer sa force sans employer la sagaie. La pierre qu'il lança fit frémir le feuillage. Un cri aigu s'éleva. « Voilà, c'est la force de Nao. Avec la sagaie aiguë, il aurait terrassé le nain rouge. » Alors seulement, il battit en retraite au milieu des glapissements de l'ennemi. Il préféra aller jusqu'au bout de l'arête. Il y avait place pour plusieurs hommes et les nains rouges devraient attaquer sur une ligne étroite. Du côté de l'eau, à cause des plantes perfides, aucun radeau ne pourrait se faire jour, aucun homme n'oserait se risquer à la nage. On ne pouvait davantage atteindre un îlot escarpé qui se dressait à 60 coudées de la levée granitique. Ayant accumulé des roseaux flétris pour le feu du soir, les oulamres n'eurent plus qu'à attendre. De toutes leurs attentes, ce fut la plus terrible. Lorsqu'ils guettaient l'ours gris, ils espéraient, par quelques coups bien portés, anéantir la bête. Lorsqu'ils étaient emprisonnés parmi les pierres basaltiques, ils n'ignoraient pas que le lion-tigre devait s'éloigner pour chercher la proie. Jamais ils n'avaient été cernés par des dévoreurs d'hommes. À présent, la horde qui les assiège a la ruse et le nombre. Il est impossible de l'anéantir. Les jours suivront les jours sans qu'elle cesse de veiller devant le marécage. Et si elle ose faire une attaque, comment 3 hommes lui résisteraient-ils? Ainsi Nao se trouve pris par la force de ses semblables. Et pourtant ses semblables sont parmi les plus faibles. Aucun d'entre eux ne saurait étrangler un loup. Jamais leur sagaie légère ne pénétrerait jusqu'au cœur du lion comme les flèches des oulamres. Leurs épieux demeureraient impuissants devant le roc, mais ils peuvent atteindre le cœur d'un homme. Le fils du léopard hait la puissance de sa race. Il la sent plus implacable, plus venimeuse, plus destructive que la puissance des félins, des serpents et des loups. Et se souvenant de la bonté des mammouths, sa poitrine se soulève, un soupir caverneux la déchire. Il tourne vers eux cette adoration qui germe au fond de son âme et qui, aussi forte que l'adoration du feu, est plus tendre et plus douce. Cependant, le soleil et l'eau mêlent leur vie brillante. L'eau est immense, on ne voit pas sa fin, et le soleil n'est qu'un feu grand comme la feuille d'un nymphéa. Mais la lumière du soleil est plus grande que l'eau même. Elle s'étale sur le marécage, elle remplit tout le ciel qui lui-même domine l'étendue de la terre. Dans sa fièvre, Nao, sans cesser de songer aux nains rouges, au combat, aux embuscades et à la délivrance, s'étonne de la lumière si vaste venue d'un feu si petit. Un poids terrible enveloppe ses épaules. Son cœur saute comme une panthère. Il l'entend battre contre ses os. Quelquefois, le nomade se dresse et lève sa massue. La guerre le remplit tout entier. Ses bras s'impatientent de ne pas frapper ceux qui insultent à sa force. Mais la prudence et la ruse reviennent, sans lesquelles aucun homme ne persisterait une saison. Sa mort serait trop belle pour l'ennemi s'il allait la chercher lui-même. Il faut qu'il fatigue les nains rouges, qu'il les effraie, qu'il en tue beaucoup. D'ailleurs, il ne veut pas mourir, il veut revoir Gamla. Et quoiqu'il ne sache pas comment il décevra la horde, sa vie forte garde l'espoir, ne sent pas qu'elle puisse disparaître. Elle s'étend aussi loin que les eaux et que la lumière. D'abord, les nains rouges n'avaient point paru, par crainte d'une embûche ou parce qu'ils attendaient une imprudence des Oulamres. Ils se montrèrent vers le déclin du jour. On les voyait jaillir de leur retraite et s'avancer jusqu'à l'entrée de l'arête granitique avec un singulier mélange de glissements et de sauts, puis, arrêtés, ils considéraient le marécage. L'un ou l'autre poussait un cri, mais les chefs gardaient le silence, attentifs. Au crépuscule, les corps rouges grouillèrent. On eût dit, dans la lueur cendreuse, d'étranges chacals dressés sur leurs pattes de derrière. La nuit vint. Le feu des Oulamres étendit sur les eaux une clarté sanglante. Derrière les buissons, les feux des assiégeants cuivraient les ténèbres. Des silhouettes de veilleurs se profilaient et disparaissaient. Malgré des simulacres d'attaque, les agresseurs se tinrent hors de portée. Le jour suivant fut d'une longueur insupportable. Maintenant, les nains rouges circulaient sans cesse, tantôt par petits groupes, tantôt en masse. Leurs mâchoires élargies exprimaient une opiniâtreté invincible. On sentait qu'ils poursuivraient sans relâche la mort des étrangers. C'était un instinct développé en eux depuis des centaines de générations, et sans lequel ils eussent succombé devant des races d'hommes plus fortes, mais moins solidaires. Durant la seconde nuit, ils n'esquissèrent aucune attaque. Ils gardaient un silence profond et ne se montraient point. Leur feu même, soit qu'ils ne les eussent pas allumés, soit qu'ils les eussent transportés au loin, demeurait invisible. Vers l'aube, il y eut une rumeur brusque, et l'on eût dit que des buissons s'avançaient ainsi que des êtres. Quand le jour pointa, Nao vit qu'un amas de branchages obstruait la bord de la chaussée granitique. Les nains rouges poussèrent des clameurs guerrières. Et le nomade comprit qu'ils allaient avancer cet abri. Ainsi pourraient-ils lancer leur sagaie sans se découvrir, ou jaillir brusquement, en grand nombre, pour une attaque décisive. La situation des Oulamres s'aggravait par elle-même. Leurs provisions épuisées, ils avaient eu recours aux poissons du marécage. Le lieu n'était pas favorable. Ils capturaient difficilement quelque anguille ou quelque brème, et, malgré qu'ils y joignissent des batraciens, leur grand corps et leur jeunesse souffraient de pénurie. Namega, à peine adulte et fait pour croître encore, s'épuisait. Le troisième jour, assis devant le feu, Nao fut pris d'une immense inquiétude. Il avait fortifié l'abri, mais il savait que, dans peu de jours, si la proie demeurait aussi rare, ses compagnons seraient plus faibles que les nains rouges. Et lui-même ne lancerait-il pas moins bien la sagaie? Sa massue s'abattrait-elle aussi meurtrière? L'instinct lui conseillait de fuir à la faveur des ténèbres. Mais il fallait surprendre les nains rouges et forcer le passage. C'était probablement impossible. Il jeta un regard vers l'ouest. Le croissant avait pris de l'éclat et ses cornes s'émoussaient. Il descendait à côté d'une grande étoile bleue qui tremblotait dans l'air humide. Les batraciens s'appelaient de leurs voix vieilles et tristes, une chauve-souris vacillait parmi les noctuelles, un grand-duc passa sur ses ailes pâles, on voyait luire brusquement les écailles d'un reptile. C'était un de ces soirs familiers à la horde quand elle campait près des eaux sous un ciel clair. Les images anciennes remplirent la tête de Nao avec un bourdonnement. Une scène se détacha parmi les autres, qui l'amollissait comme un enfant. La horde campait auprès de ses feux. Le vieux goun laissait couler ses souvenirs qui enseignaient les hommes. Une odeur de chair rôtie flottait avec la brise, et l'on apercevait, derrière une jungle de roseaux, la longue lueur du marécage dans le clair de lune. Trois filles se levèrent parmi les femmes. Elles rôdaient autour des feux. Elles dépensaient l'ardeur de leur vie qu'un jour de lassitude n'avait pu assoupir. Elles passèrent devant Nao avec leur rire étrange et la folie de leur jeunesse. Le vent se leva brusquement. Une chevelure frappa le jeune Oulamre au visage, la chevelure de Gamla, et dans l'instinct sourd, ce fut un choc. Si loin de la tribu, parmi les embûches des hommes et la rudesse du monde, cette image était la chose profonde de la vie. Elle courbait Nao vers la rive. Elle faisait jaillir de sa poitrine un souffle rauque. Elle s'effaça. Il secoua la tête. Il recommença de songer à son sauvetage. Une fièvre le prit. Il se dressa et tourna le feu. Il marcha dans la direction des nains rouges. Ses dents grincèrent. L'abri de branches était encore rapproché. Peut-être la nuit suivante, l'ennemi pourrait-il commencer l'attaque. Soudain, un cri aigu perça l'étendue. Une forme émergea de l'eau, d'abord confuse. Puis Nao reconnut un homme. Il se traînait. Du sang coulait d'une de ses cuisses. Il était d'étrange stature, presque sans épaules, la tête très étroite. Il sembla d'abord que les nains rouges ne l'eussent pas aperçu. Puis une clameur s'éleva. Les sagaies et les pieux sifflèrent. Alors des impressions tremblèrent dans Nao et le soulevèrent. Il oublia que cet homme devait être un ennemi. Il ne sentit que le déchaînement de sa fureur contre les nains rouges, et il courut vers le blessé comme il aurait couru vers Nam Egao. Une sagaie le frappa à l'épaule sans l'arrêter. Il poussa son cri de guerre. Il se précipita sur le blessé, l'enleva d'un seul geste et battit en retraite. Une pierre lui choqua le crâne. Une seconde sagaie lui écorcha l'omoplate. Déjà, il était hors de portée. Et ce soir-là, les nains rouges n'osèrent pas encore risquer la grande lutte.